Il faut imaginer qu'une voix, dans vos oreilles, raconte en direct ce qui est en train de se passer sur un plateau de danse. Vous entrez dans la salle de spectacle, vous vous installez dans le moelleux du fauteuil, vous placez un casque sur vos oreilles et là, tandis qu'autour de vous, les autres spectateurs et spectatrices continuent d'arriver, d'enlever leur manteau, de papoter, une voix vous accueille. Elle vous parle de l'endroit que vous allez découvrir et parcourir pour les 50 minutes ou l'heure à venir. Elle commence par vous décrire précisément le décor, les costumes, la stature des interprètes qui vont entrer sur scène dans un instant. Cette voix vous fait entrer peu à peu dans un spectacle de danse. Cette pratique s'appelle l'audiodescription. Une personne prend le soin de décrire et d'articuler par la parole, en direct, ce que l'on peut voir sur scène, à l'attention de celles et ceux qui ne voient pas. Et si on connaît l'audiodescription parfois à la télévision ou au cinéma, on sait moins qu'elle existe et se pratique dans le spectacle vivant. Et aujourd'hui, on reçoit Florence Mazure, comédienne et audiodescriptrice. Récemment, elle a travaillé à audiodécrire la première du spectacle Cosa, un solo de Scheherazade Zambrano qui a été accueilli au Vivat à Armentières et que l'on pourra voir au Théâtre de l'Oiseau-Mouche à Roubaix. Bonjour Florence.
Bonjour Marie.
Merci d'être avec nous.
Avec plaisir.
Alors, pour entrer un petit peu dans une part de ton métier et dans l'audiodescription, j'aimerais bien savoir comment toi, tu as commencé à t'y intéresser, comment tu as découvert l'audiodescription.
Alors, j'ai découvert l'audiodescription tout à fait par hasard, en me trompant sur ma télécommande. Et j'ai regardé un très beau documentaire de Sandrine Bonner, un documentaire qu'elle a réalisé sur sa sœur. Et je trouvais ça à la fois très, très émouvant. J'étais très emmenée par ce film et je trouvais ça très étrange. Ben voilà, on me racontait tout ce que je voyais. Et ça donnait une épaisseur supplémentaire, en fait, à ce documentaire. Et puis je me suis aperçue que je m'étais trompée. En fait, ça m'avait laissé une impression vraiment très forte et à partir de là, je me suis intéressée à l'audiodescription. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert.
Et à partir de cette expérience, comment t'as passé le pas de te dire « tiens, ça pourrait être quelque chose que je pourrais pratiquer ?»
Alors, en fait, le pont est simple, c'est que comme je suis comédienne, je suis dans le spectacle vivant depuis très longtemps. Je savais que ça commençait à être proposé. Et j'ai regardé autour de moi, en fait, sur la région, il y avait quelques structures qui proposaient, mais pas énormément. Et je me suis vraiment dit que, voilà, ça, j'arrivais aussi, moi, pour la première fois, à m'imaginer dans une activité que j'aurais plaisir à exercer, en fait. Voilà, donc le pont a été fait entre, en fait, le spectacle vivant qui est mon quotidien et puis cette découverte altruiste vers d'autres publics et qui me situait à une place différente de la mienne.
Et comment tu t'y es prise pour te former ou pour commencer à entraîner ta plume ou ton regard? Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de formation officielle, c'est bien ça?
Alors, je pense qu'il y a un parcours universitaire, mais qui est assez long. Moi, de ma place actuelle, c'était un peu compliqué pour moi de m'embarquer là-dedans. Donc, moi, j'ai suivi la formation du Centre de ressources Théâtre Handicap à Paris. Ça se fait en 2 sessions. Voilà, donc j'ai suivi cette formation en 2013 et c'est vraiment pour le spectacle vivant.
Et ça ressemble à quoi, du coup? Qu'est-ce qu'on y apprend?
Ben déjà, on est mise en situation, donc on fait beaucoup d'exercices, en fait, de descriptions très concrètes avec nos corps, avec une proposition scénique. Et puis, on commence à découvrir quelle est la nécessité, en fait. C'est la question première sur laquelle on travaille. Quand est-il nécessaire de décrire, puisque... que ce soit le cinéma ou le spectacle vivant, il y a un support très très fort qui est le support sonore, donc plus ou moins développé, avec ou sans texte, donc des univers sonores aujourd'hui, musicaux ou autres, qui peuvent être très très présents dans une représentation. Donc d'abord, il y a l'écoute. En fait, je pense qu'on commence à... On aborde l'audiodescription par l'écoute. À quel moment aussi faut-il placer une parole? Voilà, c'est aussi le ressentir la priorité des choses. Est-ce qu'on va privilégier plutôt un son et abandonner une information visuelle, hein, puisque effectivement on a un rôle d'accompagnement pour proposer les informations visuelles qui sont pas accessibles aux spectateurs malvoyant ou non-voyant. Voilà, c'est tout est une question de choix. Qu'est-ce qui va amener le plus au niveau information, mais aussi au niveau émotionnel? On accompagne en fait l'émotion d'un spectateur qui sera la sienne propre, qui ne doit pas forcément être la nôtre en tant que descripteur. Mais voilà, à quel endroit il faut trouver la place en fait d'accompagnement. Mais c'est toujours le spectacle qui prime sur la description.
Et comment ça se fait que toi, tu audio-décris spécifiquement la danse, alors qu'effectivement, tu viens plutôt du théâtre et qu'il y a voilà, un rapport au texte qui est parfois complètement absent en danse?
Alors en fait, oui, je me retrouve effectivement à faire de l'audio-description de danse, mais c'est un peu beaucoup comme novice, c'est une question de rencontre et de hasard. J'ai fait beaucoup de danse il y a très longtemps, je suis très sensible à ça, mais c'est vrai que c'est pas mon métier. Et c'est Eliane Désir, en fait, au Vivat, qui m'a proposé de commencer autour d'un spectacle de danse. Mais la première fois, c'était l'après-midi d'un fun version 1 de Fia Ménard. Il y a toujours une dramaturgie, en fait, dans les spectacles. Donc, même si, effectivement, c'est parfois mystérieux pour moi, ça me demande peut-être plus d'attention, d'inventivité aussi. Non, je m'y retrouve. C'est intéressant du coup aussi pour moi parce que ça ouvre encore à un autre regard, une autre écoute sur la dramaturgie de plateau qui est forcément différente mais qui est présente.
Est-ce que du coup, toi, tu es passé par une phase où il a fallu faire, je ne sais pas, de l'analyse du mouvement ou te noter un vocabulaire spécifique ou avoir comme ça des outils qui te servent ensuite dans l'écriture, dans la description?
Alors, j'écoute de l'audio-description. Voilà, je me nourris de ça. C'est vrai que je travaille avec, même j'ai envie de dire au théâtre, avec beaucoup de ressentis et d'intuitions. Et je pense que je me suis construite aussi comme ça. C'est un peu mon moteur, en fait. C'est un peu comme ça que je travaille. Mais j'écoute beaucoup d'audio-description, oui.
Alors moi, je suis assez curieuse de savoir quelle est ta méthodologie, comment tu t'y prends quand on dit, OK, par exemple, pour Cossa, donc ce solo de Sherazade Zambrano, on te propose voilà, de réaliser l'audio-description. Qu'est-ce que c'est la première entrée pour toi dans le travail?
Alors, je précise que Cossa, en fait, j'ai accompagné le processus de création. Donc, ce qui est encore différent, jusqu'à présent, en fait, moi, j'avais audio-décrit que des spectacles déjà réalisés. Donc là, dans ce cas-là, je travaille avec une vidéo. Mais en tout cas, dans les deux cas, mes premiers outils, c'est tout ce qui existe déjà autour du spectacle, créé ou non créé. Les notes d'intention de l'artiste, tout ce qui peut me nourrir, des articles de presse, s'il y en a, c'est pour dans le cas de spectacles déjà réalisés. Voilà, c'est déjà une matière comme ça qui vient de la compagnie, qui vient des artistes. À partir de là, il y a tout un travail de documentation. Là, dans le cadre de Cossa, par exemple, elle est partie d'un folklore totonac. Voilà, j'ai regardé beaucoup de choses là-dessus. Et puis après, on a beaucoup discuté. Je suis allée la voir pendant plusieurs étapes de travail. Elle m'a raconté beaucoup de choses. Voilà, donc ça, c'est la première chose, en fait. C'est les premiers éléments du travail. C'est vraiment une immersion, en fait. Moi, j'ai besoin d'être plongée. Je ne peux pas travailler 3 heures le lundi, 4 heures le jeudi. Non, j'ai vraiment besoin, comme ça, d'être en immersion. Et là, c'était d'autant plus agréable que les deux dernières semaines de création, on les a passées ensemble. En fait, je travaillais à la maison et puis je les rejoignais au théâtre en fin d'après-midi et j'assistais au filage. Donc, on a gardé un temps d'échange, en fait, pendant toute la création de Cossa. Et c'était vraiment, pour le coup, c'était plus un travail solitaire du tout, en fait.
Et alors, comment commence cette phase d'écriture spécifiquement à partir de là?
Alors, donc, on filme beaucoup. Et puis, à un moment, il faut se jeter à l'eau. Donc, c'est le plus dur, voilà. Il faut commencer. Donc, je commence à écrire ce que je vois. Donc, j'écris comme ça une première mouture du spectacle et qui sera absolument pas celle qu'il y aura à la fin, puisque à partir de là, Il va falloir prioriser effectivement les éléments, faire des choix, abandonner, faire des deuils aussi, se dire que là, il vaut mieux se taire et juste écouter que de donner un détail. Et en même temps, on est toujours à la recherche de détails. C'est-à-dire que c'est une nourriture qui est à la fois sur le visuel, mais aussi sur les expressions du visage, aussi sur la lumière, les déplacements, évidemment, la notion de l'espace. Voilà, on commence souvent par là, on situe. Alors là, je parle du moment où le spectacle a commencé, donc, puisque tout à l'heure, dans ton introduction, tu parlais effectivement du programme qui va donner les éléments pour lesquels on n'aura pas du tout le temps en fait, pendant la représentation. Si on a le temps pendant la représentation, on allège le programme et on les donne au fur et à mesure, mais parfois, ce n'est pas le cas.
Voilà. Donc le programme, c'est d'écrire effectivement la scénographie, ouais. L'espace, le costume, et ensuite physiquement aussi la couleur des cheveux, ouais. De la peau, à quoi ressemble l'interprète.
Ouais, absolument. Parfois un peu de vocabulaire s'il y a des choses plus spécifiques. Voilà. On essaie dans l'audiodescription de permettre aux spectateurs déficients visuels de parcourir, d'avoir toutes les étapes en même temps que le spectateur lambda. Donc, à la fois l'information, donc le programme, la note d'attention, vous arrivez au théâtre, vous avez toujours un peu de lecture avant de commencer le spectacle. Et ensuite, que l'émotion, que la construction de l'émotion du spectateur et son parcours de spectateur se fassent exactement en même temps que le spectateur lambda. C'est l'objectif, en fait.
Et pour arriver à ce tissage entre éléments de description, émotion, ça veut dire qu'à partir de vraiment cette première version du texte, il y a un travail, est-ce que c'est d'élagage ?
Non, alors au contraire, on passe par une période d'enrichissement, c'est-à-dire vraiment d'affiner les adjectifs, de préciser les verbes d'action. C'est-à-dire on cherche vraiment, j'aime pas le mot efficacité, mais l'efficacité de l'image. C'est-à-dire qu'il faut qu'à aucun moment le spectateur se dise tiens, qu'est-ce qu'elle a dit. Enfin voilà, faut jamais qu'il retourne en arrière. Faut jamais qu'on le perde en fait. À la fois on enrichit, à la fois on a toujours la contrainte du tempo du spectacle puisque il y a des moments où on ne peut pas parler, donc à la fois on recherche les mots parfois les plus concis, enfin il y a une concision, voilà. Et il y a un vrai travail d'élagage, souvent à la fin, ça demande beaucoup de recul en fait, il faut toujours prendre du recul et se faire écouter, il faut absolument partager la description avant qu'elle soit terminée, parce qu'il y a des choses qui nous semblent logiques à nous, en travaillant, et puis quelqu'un d'autre va nous dire « mais c'est quoi ce truc ?» Donc voilà, il faut confronter, en fait, aussi.
Et tu veux dire à des gens qui ne connaissent pas du tout le travail,
absolument.
Ni la pièce.
Ouais, absolument. Et le travail d'élagage arrive souvent, c'est une des dernières phases, en fait. Voilà, de se dire « mais non, ça, en fait, c'est pas utile. » Voilà.
Et ça, c'est jusqu'au soir même,
oui.
J'imagine.
Oui, même... c'est vrai que moi, j'ai l'impression d'avoir jamais terminé ce travail, en fait. Là, comme il est question qu'on continue avec l'audiodescription, j'ai continué à travailler, en fait, même après la première. C'est là aussi où c'était une première pour moi d'accompagner un processus de création. C'est que je n'ai pas forcément eu le recul. Je suis arrivée à la première avec eux, en fait, quoi. Donc, je n'ai pas eu le... J'ai pas eu le recul habituel qui m'était nécessaire. Donc voilà, bon, je l'ai pris après, mais j'ai continué à travailler, du coup.
Et ça veut dire, pour qu'on imagine que, là, pour la première de Kosa, toi, tu as un texte avec toi, donc qui ressemble, je sais pas, à un script ou à presque un scénario, on imagine.
Ouais.
Et que j'imagine que tu as des stratégies pour... parce qu'on est quand même dans le spectacle vivant et la danse, donc il y a des choses forcément qui bougent ou qui ne se passent pas exactement comme ce qui a été écrit.
Ouais.
Donc toi, quels sont tes outils pour réagir effectivement en direct, dans le déroulé, à quelque chose qui n'était pas là ou qui est différent de ce que t'es sur le papier ?
Oui, et là, comme ça, il y a l'élément... voilà, de la corde aussi, que Scheherazade ne maîtrise pas forcément. C'est-à-dire que la corde a aussi sa propre vie. Donc, ça ajoute du suspense Alors, les outils, c'est d'avoir bien travaillé mon sujet, d'avoir intégré ce qu'elle veut raconter, puisque à partir de là, tout un vocabulaire se déploie en fait en fonction de la dramaturgie. Il faut vraiment qu'on cherche à comprendre ce que veut raconter le metteur en scène ou la chorégraphe. Donc voilà, donc j'ai quelques petites phrases de secours, mais c'est vrai que je traverse cette représentation, je suis complètement à l'écoute de l'artiste et à la fois dans l'accompagnement des spectateurs. Donc il y a parfois un peu d'impro, bien sûr, qui peuvent être aussi des choses que j'ai traversées dans l'écriture et qui ne sont plus là, qui ne sont plus dans le texte. Donc, je suis quand même imprégnée de ce travail. Voilà. Mais je ne pourrais pas improviser, en fait, s'il n'y avait pas eu tout le boulot derrière, en fait. L'audiodescription, c'est d'abord un travail d'écriture.
C'est pas du tout comme les commentateurs sportifs qui, en direct, racontent les choses.
Alors, néanmoins, il y a une association où vous pouvez accompagner quelqu'un de malvoyant au spectacle et puis vous lui chuchotez à l'oreille à la demande. C'est-à-dire que la personne traverse la représentation et au moment où il lui manque un élément, elle vous sollicite et ça se fait à voix basse dans le creux de l'oreille. Donc ça existe, mais c'est autre chose. Effectivement, là, c'est tout un travail d'écriture, c'est ça qui prime. Et effectivement, je suis dans une cabine ou en régie et j'ai les yeux rivés sur l'artiste et mon texte.
Moi, j'ai fait l'expérience du coup d'écouter Cossa en même temps de le voir et je me suis dit que tu faisais aussi très attention à être à une place qui n'empiétait pas sur, effectivement, nous, notre ressenti. Par exemple, pas aller vers le trop poétique ou vers le trop imagé, mais être toujours attentive à être dans la description.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'audiodescription n'est pas neutre, néanmoins. À la fois, on ne doit pas interpréter. À la fois, si deux audiodescriptrices décrivaient le même spectacle, ce ne serait forcément pas la même audiodescription. Donc oui, il y a quelque chose qui n'est pas neutre. On accompagne. Au plus, il y a de la poésie au plateau. Forcément, je pense que ça imbibe un peu l'écriture. Mais l'audiodescription, c'est d'abord l'action, en fait. Donc, il faut toujours revenir à l'action. Toujours. Donc, ça ramène aussi à quelque chose de très concret. Voilà. Et après, je pense qu'il y a peut-être un peu de poétique. Enfin, c'est pas notre rôle, mais peut-être, comme je disais, qui imbibe un peu l'écriture en fonction de la force du plateau, quoi.
On disait juste avant de commencer qu'il y avait quelque chose d'assez curieux aussi. C'est que souvent, comme là, ça a été le cas, l'audiodescription est créée. Mais qu'ensuite, elle n'accompagne pas forcément le spectacle en tournée ou que les dates peuvent se faire rares. Comment ça se fait ?
Alors, la sensation, c'est une impression que j'ai, c'est que les lieux qui ont envie d'élargir leur public, de proposer ça à des publics nouveaux, ont envie de la produire. Donc, ils financent, ils trouvent aussi des financements pour produire l'audiodescription, ce qui est très bien, je ne m'en plains pas du tout, au contraire. Mais c'est vrai qu'il existe tout un tas de spectacles déjà audiodécrits, je pense qu'ils pourraient tourner plus. Oui, je pense que ça marque aussi l'engagement des théâtres que d'être à l'origine de la réalisation de l'audiodescription.
Et combien d'heures ça prend, en fait, de travailler ? Alors, Cossa, c'est particulier, tu disais que c'était une création, donc peut-être que tu as passé plus de temps que d'habitude.
Oui, beaucoup plus de temps. Ouais. Ah, oui, c'est presque... c'est pas doublé, mais c'est presque doublé, oui. Pour une minute de spectacle, moi, je mets entre 1h15 et 1h30 pour une minute. Mais là, Cossa, c'est beaucoup plus, en fait. Ouais, c'est presque le double.
Du fait que c'était une création et que tout était...
Oui, et puis que j'ai été beaucoup en présence. Et puis comme on n'a pas ce recul, forcément, on a le calendrier qui avance, vitesse grand V. Du coup, oui, les journées sont très longues. Ouais.
Et pour Kosa, est-ce que tu te souviens d'un dilemme particulier ou de quelque chose qui a été spécifique dans le choix des mots ou dans les choix que tu as dû faire ?
Oui, alors c'est la description de la corde. On en parlait encore il y a quelques jours avec Scheherazade. Parce que ce qui a été bien aussi, c'est que là, on a beaucoup échangé. Moi, j'avais besoin d'abord qu'elle me fasse des retours. On a besoin que la personne à l'origine de la dramaturgie soit d'accord avec ce qu'on a écrit. Donc là, pour moi, en plus, c'était génial parce que c'était la première fois que j'avais vraiment un échange avec l'artiste, puisque sinon, j'envoie le texte, mais bon, voilà, souvent, les gens n'ont pas trop le temps. Et là, c'est vrai qu'on a pris le temps après. Donc c'est vrai que cette histoire de corde était vraiment complexe, puisque... À la fois, c'est très technique. À la fois, je ne voulais pas le dévoiler avant la représentation. Je trouve que la surprise était possible. On pouvait garder cette surprise. En fait, le moment où cette corde arrive dans le spectacle, on n'a pas du tout envie d'être technique. Au contraire, on est déjà... On s'est déjà construit une émotion. Donc, revenir à quelque chose de technique n'était pas non plus bienvenu. Donc, bon, je sais pas, j'ai dû écrire 30 trucs différents sur cette histoire de corde. Il fallait être très concis et au plus près de la réalité, puisqu'on voit plusieurs choses qui arrivent et en fait, il n'y en a qu'une. Et à la fois, ça va servir. Donc, il faut que le spectateur soit en mesure de, ben, justement, de ne pas trop se questionner non plus sur « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comment elle fait ? Elle a dit ça, mais ce n'est pas possible qu'elle fasse ça de cette façon. » Enfin, voilà quoi. Donc ça, oui, ça a été vraiment, ça a été vraiment le casse-tête.
Pour raconter un peu, la corde, c'est presque un partenaire de jeu.
Absolument.
Je ne sais pas si on peut dire personnage, mais en tout cas un vrai partenaire.
Oui, oui, oui. Dans le spectacle et puis pour Scheherazade aussi. Mm.
Et est-ce que tu as souvent des retours de spectateurs, auditeurs, du coup, de gens ? Parce que là, on parle des artistes et des compagnies, mais de gens voilà, qui ont la possibilité d'écouter le spectacle et ta voix.
Oui, cette année, c'était très, très exceptionnel. Puisque du coup, avec le confinement, quelques amis de la compagnie, coproducteurs, sont venus assister à la représentation. Et pour mon plus grand bonheur, il y a eu beaucoup de personnes curieuses qui ont écouté l'audiodescription. Et sinon, bien sûr, oui, c'est un public qu'on rencontre, qu'on accompagne. Et après la représentation, quand je récupère les casques, c'est aussi le moment d'un échange autour de la représentation qui vient de se dérouler.
Il y a aussi des personnes voyantes qui peuvent demander à avoir un casque et d'assister à l'audiodescription pendant un spectacle. Et toi, ce qui t'intéresse dans cette démarche que tu poursuis, tu emploies beaucoup le mot d'accompagnement, mais est-ce que c'est une question d'accessibilité, de rendre aussi le spectacle accessible à des gens à qui autrement il ne serait pas possible d'avoir accès à la danse ?
Je pense que l'accessibilité est quand même le moteur premier. Après, je découvre aussi que ça ouvre des portes sur, comme tu dis, une façon de d'avoir accès peut-être à des spectacles qui pourraient être, j'aime pas le mot hermétique, mais peut-être plus difficile ou voilà. Je trouve que le hasard est pas mal. Je trouve que le hasard d'accompagner un malvoyant et finalement à la fin de la représentation de se dire ah, c'était vraiment mieux avec l'audiodescription, même en ayant aimé le spectacle, mais en tout cas que ça avait apporté quelque chose. Voilà, je trouve ça bien aussi. Il y a aussi des malvoyants qui ne prennent pas l'audiodescription. Il y a des malvoyants ou des non-voyants qui préfèrent être juste dans l'écoute. Oui, on peut être voyant et apprécier l'audiodescription et malvoyant et préférer s'en passer. Voilà.
Et est-ce que toi, depuis que tu as commencé ça, est-ce que tu as l'impression que ton regard de spectatrice a changé ?
Oui, je pense que j'ai un peu gagné en lecture. pourtant, je suis une spectatrice avertie. Je vais au théâtre et au spectacle depuis très, très longtemps. Mais oui, je vois que ça trotte. Oui, ça travaille. Ouais, ça travaille. Donc... non, c'est toujours intéressant en fait. Oui, du coup, donc je pense que ça nourrit aussi, les choses se nourrissent entre elles en fait. Mmh. Aussi, ouais.
Mmh. Et ça t'arrive par ailleurs d'assister à certaines représentations en audiodescription quand c'est disponible dans les théâtres ?
Alors, Quand je peux, oui, mais malheureusement, je suis comme les saisons sont construites de la même façon dans tous les théâtres, je ne suis pas forcément disponible pour la date d'audiodescription. Mais la saison dernière, j'ai pu voir le spectacle de Gaëlle Bourges à La Rose des Vents, oui, qui était audiodécrite par Frédéric Ledu, qui ne se fait pas en direct, néanmoins. Voilà, puisque Accès Culture enregistre la description et c'est envoyé comme un effet son de la régie.
Ah voilà. Oui, donc ça arrive que ce ne soit pas forcément en direct.
Absolument, oui. Okay. Oui. Accès Culture, l'association Accès Culture qui audio-décrit pratiquement tous les opéras en France, qui accompagne les grosses structures comme Chaillot, Nanterre, enfin voilà, c'est les grosses productions, les gros spectacles comme ça, l'audio-description enregistrée.
D'accord. Mm-hmm. Et ça t'est déjà arrivé, ça, d'enregistrer pour que ce soit diffusé sans toi ?
Non. Alors, ça me plairait. Je pense que c'est un travail qui me plairait aussi. Mais à ma place d'audiodescriptrice, je ne voudrais pas faire ça de façon enregistrée. J'aime trop le direct de la représentation. Pour moi, c'est un moment super. Oui, je ne pourrais pas envisager de le faire comme ça.
Ben, merci. Beaucoup.
Merci Marie.